Nous allons continuer ce soir avec le paramita de l'éthique. Qui correspond plus ou moins à l'aspect de Sila dans la quatrième vérité noble. Il y a une manière naturelle avec laquelle l'éthique se développe du fait que nous pratiquons la méditation et que nous nous engageons à comprendre mieux la valeur de l'acte juste, de la parole juste. Mais il y a aussi une manière de cultiver l'éthique au quotidien, et l'un fonctionne avec l'autre. Lorsqu'on parle d'éthique, parfois nous nous sentons un peu à l'étroit parce que nous tombons tout de suite dans la notion du bien et du mal, de la culpabilité, du sens du devoir et du jugement. Et l'éthique dans la méditation, dans la manière, en tout cas dont moi j'ai reçu, cette qualité-là, c'est un droit à prendre. On l'a déjà vu. Combien prendre le droit de l'acte juste, de la parole juste, demande une force intérieure. Parce que pour quelle raison est-ce que nous n'agissons pas correctement? C'est que nous nous sentons menacés. Et il y a la réponse du berger à la bergère. C'est le corps qui se transforme à travers l'exercice de la méditation, de même que c'est le corps qui répond instinctivement, de manière violente, suivant le contact qui touche la conscience. J'étais très touchée quand Ajahn Sumedho parlait de ce droit de ne pas tuer, de ce droit de ne pas voler, de ne pas prendre plus que ce dont nous avons besoin, de cultiver la simplicité, le respect. Et c'est un droit qui peut paraître évident, mais nous vivons dans des conditions extrêmement bonnes actuellement. Nous n'avons pas de grands conflits éthiques, mais imaginez la Syrie, imaginez quand les conflits interreligieux s'installent ou des pouvoirs totalitaires. Quel droit est-ce que nous prenons? Il y a cette très belle parole de Martin Luther King qui dit « À notre capacité d'infliger la souffrance, nous opposerons une égale capacité à endurer la souffrance. Nous affronterons votre force physique avec la force de l'âme. Nous ne vous haïrons pas, mais nous n'obéirons pas à vos lois injustes. Et notre capacité à souffrir aura raison de vous. Nous solliciterons à tel point votre cœur et votre conscience en conquérant notre liberté que nous conquérerons la vôtre en même temps. » Avec l'éthique, le conflit intérieur pointe au conflit extérieur. Et nous ne pouvons transformer le monde que dans la mesure où nous nous sommes transformés nous-mêmes. Et la non-violence n'est effective que dans la mesure où nous avons rencontré à l'intérieur de nous-mêmes notre propre violence, notre propre irritation, notre propre peur, notre propre inquiétude. Parce que c'est sur cette base de l'inaccompli que la violence s'installe. Et par définition, faire preuve d'éthique, c'est être capable de choisir. Ça ne veut pas dire que nous ne devons jamais agir avec force, mais comment nous agissons avec force est déterminant. Soit nous créons, nous sommes dans l'acte juste et nous offrons qui nous sommes au monde et à nous-mêmes, ou alors nous sommes dans la réactivité et le karma. Nous créons du karma, nous créons des choses qui doivent être purifiées à nouveau. Donc au début, cette qualité éthique est à travailler et peu à peu, ça devient l'expression du dharma. Et il y a ces trois choses, l'acte qui est cet élan de beauté où naturellement nous répondons avec calme et joie. Et la parole, le Bouddha a longuement parlé de la parole juste parce que nous pouvons tuer avec nos mots. Le mot est porteur d'un pouvoir extrême parce que nous sommes dépendants les uns des autres. Nous avons besoin de l'amour et du respect de l'autre. Il y a le mode de vie juste qui est cette conscience de vivre dans une certaine simplicité, avec humilité, avec de travailler le service. Non pas le service qui est négation de soi-même, mais l'abondance interrelationnelle, le service libre qui coule. Parce que ça fait du bien, et à moi, et à l'autre. Et qu'est-ce qui empêche d'être dans l'éthique? Il faut bien retrouver ces deux premières vérités. La première, l'instant n'est pas parfait. Et quand la souffrance vient, que ce soit une souffrance physique, une souffrance interrelationnel ou simplement une déprime, on ne sait pas trop pourquoi. Le moi devient tellement central que l'aspect de l'éthique perd totalement son sens. Et en cultivant la présence à l'instant, en fortifiant cet espace de réceptivité, que l'expérience soit bonne ou douloureuse, j'apprends l'équanimité, j'apprends à la recevoir telle qu'elle est. Alors, l'oubli, disons, le moi au centre se fait de plus en plus consciemment. Et nous sentons quand nous glissons dans ces réactivités identitaires. Il s'agit donc de voir que les choses changent et de les accepter comme telles. Ça change. C'est Soljenitsyn qui dit « Si seulement nous étions tous plus simples, si seulement il y avait quelque part des gens mauvais qui commettaient volontairement de mauvaises actions et qu'il serait nécessaire de séparer du reste des hommes et de détruire. » Mais la ligne qui sépare le bien du mal traverse le cœur de chaque être humain. Et qui parmi nous est d'accord de détruire un morceau de son propre cœur? Ce que nous appelons le mal n'est pas quelque chose à détruire. C'est quelque chose à savoir recevoir et lui enlever son pouvoir, bien sûr. Et si nous savons le recevoir, l'acte devient conscient. Il n'y a plus ces mouvements involontaires de réactivité qui créent la souffrance, et même les petites souffrances qui sont les nôtres. Ok, maintenant c'est des petites souffrances. Mais dans des conditions extrêmes, personne ne sait. Et travailler cette force de conscience, alors que nos conditions sont bonnes, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux? Ça, c'est faire notre part. La deuxième vérité, c'est l'avidité. Nous l'avons vu souvent, mais ça n'est jamais de trop de le rappeler. Cette soif, je dois avoir. J'ai absolument besoin de satisfaire mes préférences ou de rejeter mes aversions. Et dans l'interrelationnel, cette frustration vient lorsque l'autre ne me donne pas ce que je veux ou lorsque l'autre me demande ce que je ne veux pas donner. Nous sommes... La question de l'abus est quelque chose d'extrêmement fin et nous sommes souvent pris en otage, malgré nous, ou nous prenons en otage dans cette... codépendance interrelationnelle. Et c'est ok. Les conflits d'intérêts, les divergences d'opinion, la non-existence par rapport à l'autre ou le trop d'existence par rapport à l'autre, ça fait partie de la vie. Peu importe qu'on soit l'un ou l'autre finalement. Mais c'est tellement important de le voir et de pouvoir l'assumer. Ah ouais, moi je suis complètement non-existant. C'est autre chose que de dire « Ah, je suis de nouveau dans la non-existence !» Et là est toute la différence. Parce que lorsque nous pouvons maintenir un espace entre l'expérience et la conscience, entre le moi et la conscience, nous enlevons le pouvoir de la souffrance à nous envahir. Mais elle est là, ok, mais elle est chouchou. Parce que la présence est là. Parce que la présence est là et qu'elle est forte. J'écoutais, j'ai lu un article qui m'a été envoyé par... Gregory Kramer par mail. C'était vraiment intéressant. Ça parlait de les neurosciences qui, avant, définissaient beaucoup le système sympathique et le système parasympathique, celui qui est volontaire et celui qui ne l'est pas. Et puis, il parlait du cœur et de la respiration, et puis des mimiques du visage qui sont liées. Et dans l'article, le gars disait « Maintenant, il y a une hiérarchie qui se crée dans la conscience que nous avons de l'expérience humaine ou du fonctionnement de la nature humaine. » Et dans cette hiérarchie, lorsque nous prenons conscience d'un travail intérieur possible, le premier aspect... La première chose que nous cherchons à exprimer quand quelque chose se passe, c'est le calme et la joie. Naturellement, c'est ça que nous allons chercher à faire. Comment faire pour que ça se passe bien? Et puis si ça ne marche pas, alors le deuxième aspect, la respiration commence, le cœur commence à battre, la respiration s'altère, les mimiques du visage se tendent. Voilà. Et puis si ça continue, que ça ne suffit pas à nous remettre dans nos pompes, alors il y a la fixation, la réactivité, le manque d'éthique qui se met en place. Et ce qui était beau dans cet article, c'est que naturellement, la première chose que nous cherchons à faire, c'est de mettre le calme et la joie. Ça, c'est naturel. Donc quand nous travaillons la pleine conscience, nous n'avons pas besoin de faire tellement d'efforts éthiques. naturellement, toute la nature humaine va vers la lumière. Si nous faisons notre part de cultiver la conscience, naturellement, le deuxième et le troisième degré ou aspect diminue et le premier s'amplifie. Et pour ça, il s'agit d'apprendre finalement la non-réactivité, c'est la possibilité d'être ouvert à la souffrance. Ça n'est pas la mienne. Ok, c'est là, c'est douloureux. Mais c'est venu, ça n'était pas là avant, ça a un temps de vie et ça passe. Donc si là, l'éthique, ça n'est ni un devoir, ni un idéal, ça découle naturellement de la sagesse qui est déjà totale en chacun d'entre nous. C'est là que nous voulons vraiment aller et nous le savons de mieux en mieux. Dans le Samyutta Nikaya, il y a une parole que j'aime, que je vous ai déjà partagée, et qui est pour moi tellement forte et tellement parlante. Celui qui répond à la haine par la haine est pire que celui qui a haï le premier. Ne répond pas à la haine par la haine et gagne une bataille difficile à gagner. Celui qui reconnaît la haine d'un autre et qui, en pleine conscience, maintient la paix dans son esprit, n'encourage pas seulement sa propre mission, mais également celle de l'autre. Et dans le Visuddhimagga, il est dit, si tu ne gagnes pas cette bataille difficile à gagner, tu fais à toi-même le même mal que ton adversaire. Tu es comme du bois mort. Comme du bois mort, parce que nous répondons à notre nature, on pourrait dire animale, et que nous ne faisons pas honneur à ce qui est humain, ce qui est lié à cette sagesse possible pour la nature humaine. Si nous pouvons changer les choses, changeons-les, mais autrement, apprenons à dire oui. Oui, quand l'expérience est telle que je la souhaite, qu'il n'y a pas de problème, pas d'inquiétude, pas de douleur. Mais si les choses sont difficiles et que je ne peux pas les changer, eh ben, il n'y a pas le choix. Apprendre à dire oui. C'est Jules Renard qui dit « Il est plus difficile d'être un honnête homme pendant 8 jours qu'un héros pendant un quart d'heure. » Parce que un travail intérieur, c'est quelque chose qui s'installe sur la durée. C'est vraiment, c'est toute une vie qui s'articule autour d'une intention. Et nous avons vu cette persévérance ou cette détermination nécessaire en même temps que la patience, en même temps que la bienveillance et la compassion. Et le silence est bon. L'éthique, ça n'est pas seulement faire un acte juste ou dire une parole juste, mais c'est aussi tout ce que nous retenons. Ah, oh, j'aurais envie de faire ça. Eh ben non. Oh, respect. Le Bouddha a dit, par rapport à la parole, abstenez-vous de dire quoi que ce soit de faux et de blessant. Abstenez-vous de dire quoi que ce soit de vrai et de blessant. Abstenez-vous de dire quoi que ce soit de faux et d'agréable. Et si vous connaissez quelque chose de vrai et d'agréable, attendez le bon moment. Ce que je voulais vous partager ce soir. Et ce que nous faisons en nous-mêmes, ne pas oublier que nous le faisons pour l'autre. Thich Nhat Hanh le dit bien, en cultivant la paix et le bonheur en nous-mêmes, nous le cultivons chez l'autre. C'est un acte d'éthique en soi.